Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Décidément, l'exposition temporelle Achille et la guerre de Troie qui a cours au Musée de la Romanité depuis quelques temps, et Dieu merci pour quelques temps encore, continue de nous occuper, nous intéresser, voire nous obséder, puisqu'aujourd'hui, en compagnie de Claude Aziza, que je salue bien entendu, bonjour Claude Aziza.
Bonjour.
Eh bien aujourd'hui, nous allons encore travailler cette geste d'Achille et toutes ces histoires qui gravitent autour d'elle. Parmi elles, parmi toutes ces histoires, et appelées par toute la scénographie de l'exposition, nous avons eu envie, tous les deux, de parler des Amazones et de commencer par une particulièrement qui s'appelle, alors selon les langues, Penthesilea, Penthesilée, Amazone s'il en est, que vous avez retrouvé, Claude Aziza, dans l'exposition temporaire. Sous quelle forme ?
Absolument. On la retrouve dans l'exposition temporaire, bien sûr, sous la forme d'une guerrière qui combat du côté des Troyens et qui est tuée par Achille. Ça, c'est le point de départ. Mais les choses sont beaucoup plus complexes que ça.
Alors, tout d'abord, je vais quand même préciser que c'est lors de toutes ces merveilleuses animations que l'on peut admirer dans l'exposition, il y avait un dessin qui reproduisait une autre illustration fort connue sur une poterie que l'on peut voir au British Museum, et on voit une scène particulière de la vie ou de la mort de cette fameuse Amazone.
Plutôt de la mort.
Voilà.
Alors, Penthesilée, donc, d'après un poème du 8e siècle avant Jésus-Christ qui est perdu et qui s'appelle L'Éthiopide, c'est la reine des Amazones, c'est la fille d'Arès, le dieu de la guerre. Et d'autre era, sur laquelle je ne vais pas m'étendre,
voilà.
Elle est d'origine thrace. Alors, dans l'Éthiopide, qui est un poème perdu, on raconte que Penthesilée et les Amazones viennent au secours de Troie. Alors, le poème dit le jour des funérailles d'Hector, d'autres sources disent avant la mort d'Hector, et d'autres sources disent après la mort d'Hector, et non pas le jour des funérailles.
Et voilà, en tout cas, elle est associée à Troie et à Priam,
oui,
la figure de
elle
Priam.
Elle est associée à Troie et à Priam, d'ailleurs d'une façon extrêmement bizarre, parce que Priam, qu'on ne connaît que comme le vieux roi de Troie, au cours de sa jeunesse, avait combattu les Amazones.
Oui.
Bon, je passe sur cet épisode. Donc, d'après l'Éthiopide, Penthesilée va, et donc à Troie, elle va combattre avec succès d'abord Ulysse, c'est quand même assez intéressant parce que c'est une guerrière, et puis ensuite elle va en arriver à lutter avec Achille. Il va se trouver que Achille va lui percer le sein gauche, qui est apparent, puisque les Amazones se coupent le sein droit, et au moment où elle meurt, il devient profondément amoureux d'elle.
Voilà, donc il la combat, il la blesse, il la tue, il l'aime.
Voilà. Et alors, se passe un épisode que nous raconte d'ailleurs un autre auteur du 4e siècle après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ.
Oui, alors on a fait un bond dans l'histoire.
Quintus de Smyrne.
Oui.
Et qui, dans une scène de ce qu'il appelle les post-homériques, c'est-à-dire des récits annexes de la guerre de Troie.
Et alors, il y en a beaucoup. Hein.
Ouf, il y en a énormément. Et donc, Achille pleure. Et à ce moment-là, le plus laid des Grecs, il est bossu, il est difforme, qui s'appelle Tersite, se moque de lui en lui disant « Tu n'as pas à pleurer, tu vas t'essayer. »
Et Achille, bien sûr, le bouillant Achille,
le tue d'un coup de poing.
Voilà.
Mais il se trouve que Tersite et a pour cousin un des héros grecs, Diomède, et qui va se mettre en colère et exiger que Achille se purifie de ce meurtre. Fin de l'histoire mythologique de Penthesilée.
Alors, oui, voilà. On peut préciser que l'histoire, une des histoires dit qu'il va incinérer le corps de cette reine des Amazones sur les rives du Scamandre.
Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que bien plus tard, en 1808, un dramaturge qui s'appelle Heinrich von Kleist écrit une tragédie qui s'appelle Penthesilée, où dès le début de la tragédie, Penthesilée combat et vainc non seulement Achille mais Diomède. Mais c'est intéressant parce qu'il raconte l'histoire à l'envers. C'est-à-dire, Achille blesse simplement Penthesilée, l'emporte sous sa tente et devient amoureux d'elle. Elle-même éprouve un amour très violent pour Achille. Mais, elle lui révèle que les Amazones ont une loi très rigoureuse, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent aimer qu'un homme après l'avoir vaincu au combat. Mmh. Or, elle sait très bien que Achille étant elle vulnérable, elle ne pourra jamais le vaincre. À ce moment-là, Achille provoque Penthesilée, qui l'aime aussi, et il va combattre contre elle désarmé en souhaitant se laisser tuer.
Oui.
Mais à ce moment-là, elle devient folle dans son conflit intérieur, donc elle va le tuer d'une flèche. Et ensuite, en pleine folie, alors qu'il meurt en se plaignant avec beaucoup de tendresse, en pleine folie, elle le déchire de ses mains et de ses dents.
Wow.
Elle s'acharne sur le corps d'Achille, mais elle meurt elle-même à ce moment-là sur son corps et en expirant, elle demande aux autres Amazones qui l'entourent de s'affranchir de cette loi tyrannique qui fait qu'on ne peut aimer qu'un homme qui a été vaincu.
D'accord.
Voilà la tragédie de Penthesilée.
Alors, nice. Cette tragédie, j'allais dire moderne, hein, c'est pas tout à fait notre époque, mais c'est quand même par rapport à la geste d'Achille extrêmement moderne, donc va donner lieu à une musique que nous entendrons tout à l'heure, qui s'appelle aussi Penthesilea, et là c'est Hugo Wolf qui, inspiré par cette pièce de théâtre, cette tragédie, va lui aussi composer une œuvre symphonique pour grand orchestre. Et c'est un petit bout de cette symphonie que nous écouterons tout à l'heure. Mais j'aurais d'abord envie, pour clore cette première partie de l'émission Antiquissimo Claude Aziza, que vous nous disiez quand même, on a fait exprès d'oublier de le définir, mais c'est quoi une Amazone ?
Alors, selon la mythologie grecque, les Amazones serait issu des amours d'Arès, dieu de la guerre, et de la naïade Harmonie. Mais selon d'autres, leur mère ne serait pas cette naïade, mais Aphrodite. Leur nom, admettant généralement, signifie Amazone, celles qui n'ont pas de sein. Car, pour tirer plus facilement, elles se coupaient ou se brûlaient le sein droit.
Oui, parce qu'il faut quand même dire que ce qui va avec Amazone, c'est le cheval et l'arc pour tirer, ce sont des combattantes.
Mais cette étymologie n'est pas assurée.
Oui.
Et il y a une autre étymologie qui, à partir du mot mazza, l'orge, les Amazones vivant uniquement de leur chasse seraient celles Amazones qui ne mangent pas d'orge,
oui,
qui ne mangent pas de pain.
D'accord.
Et qui ne mange que de la viande.
L'anti-végétarienne.
C'est une deuxième étymologie. Une troisième étymologie, portée par le poète mythologue Robert Graves,
oui, qu'on connaît très bien, sûr, qu'on adore,
signifierait simplement femme lune. Pourquoi ? Parce que c'était des guerrières qui combattaient peut-être plus souvent la nuit sous la lune que sous le soleil. Ça, c'est la légende antique. Alors, parmi toutes ces Amazones, il y en a au moins deux qui sont célèbres, c'est Hippolyte et Antiope.
Voilà, on y reviendra peut-être plus en détail, mais en quoi ces Amazones sont-elles spécifiques donc, à la mythologie grecque ? Quand est-ce qu'elles interviennent ? Est-ce qu'on a des choses à signaler à nos auditeurs, pardon ?
Non, elles n'interviennent à partir de sources qui sont des sources douteuses, Hérodote par exemple. Ce qui est intéressant, c'est plutôt qu'elles interviennent dans des cycles héroïques et qu'elles vont être opposées aux deux plus grands héros, qui sont Héraclès et Thésée. Et d'ailleurs, c'est intéressant aussi, puisque Héraclès va combattre Hippolyte, mais en fait, il ne veut pas la tuer, il veut simplement lui demander sa ceinture. Mais comme Héra est jalouse d'Hippolyte, Hippolyte va se défendre et Héraclès va la tuer. De la même façon, mais d'une façon moins tragique, Thésée va combattre Antiope et on ne sait pas trop, ils ont vraisemblablement des amours entre eux. Mais peut-être que non, parce qu'on a une autre version où Antiope et les Amazones viennent assiéger Athènes, essayer de la dévaster, et elles vont être massacrées par les Athéniens. Bon, voilà en gros les épisodes mythiques, il y en a d'autres. Hein, mais...
Et alors bien sûr, tout le monde comprend bien qu'à l'univers masculin s'oppose cette société matriarcale alors, des Amazones.
Il y a quelque chose d'assez amusant. Dans le Lys de la Vallée, et peut-être ça explique qu'au début du 19e, regardez, Kleist en 1808, Balzac, Lys de la Vallée, 1835, avait remarqué, je le cite, « La plupart des femmes qui montent bien à cheval ont peu de tendresse. Comme les Amazones, il leur manque une mamelle et leurs cœurs sont endurcis en un certain endroit, je ne sais pas lequel. »
Bon, donc c'est clair, voilà. Des femmes qui combattent sont forcément sans cœur.
Ou qui montent à cheval.
Ouais, voilà. C'est ça.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un siècle après Kleist, 1808, Penthesilée, en 1908, apparaissent pour la première fois dans une production muette pâtée anonyme les Amazones et... Cela s'appelle les Amazones à travers le temps.
Alors, je vous arrête parce que la deuxième partie, nous enfourcherons, si j'ose dire, le cheval du péplum et du cinéma. Là, il est temps de conclure la première partie avec une petite pause musicale. Et on aura donc passé des images traditionnelles des poteries grecques au théâtre avec Kleist, avec ce poème symphonique de Hugo Wolf, composé en trois parties. En voilà un tout petit extrait. Tout de suite, Claude Aziza.
À tout de suite.
Antiquissimo sur Radio Alliance Plus et voici la deuxième partie de cette émission intitulée, et bien sûr on comprend pourquoi, A comme Achille, A comme Amazone. Nous étions donc partis, j'aurais pu dire A comme Aziza, mais je ne l'ai pas dit. Nous sommes partis de l'exposition temporaire au Musée de la Romanité avec l'évocation de la mort d'une célèbre Amazone dont nous avons raconté l'histoire, le combat, l'amour avec Achille et la mort. Nous avons rapidement évoqué les figures des Amazones et Hippolyte et Antiope, deux autres fort célèbres. Et il est temps peut-être maintenant de parler 7e art, cinéma.
Voilà, donc je viens de dire qu'un siècle après Kleist, en 1908, on a la première production muette sur les Amazones, il y en aura deux. Et en 3 ans après, en 1911, on a une production éclair, toujours anonyme, Les Amazones, armée grecque, ce qui est quand même assez amusant parce que mythiquement et au cinéma, les Amazones combattent toujours les Grecs. Mmh. Bon. Alors, on passe directement au parlant et ça va nous emmener au début du second âge d'or du péplum qui commence en 58 par les travaux d'Hercule. Et dans ces travaux d'Hercule de Pietro Franceschi, on voit les Argonautes d'ailleurs, car il s'agit plus des Argonautes d'Hercule, qui tombent entre les mains des guerrières de Lemnos. Et si j'en parle, c'est que Hérodote, un peu, il faut dire un peu rapidement, assimile ces guerrières de Lemnos aux Amazones, ce qu'elles ne sont pas.
Alors, on n'a peut-être pas mentionné qu'un des 12 travaux d'Héraclès était justement de ramener cette ceinture d'Hippolyte, reine des Amazones.
Voilà. Si l'on veut prendre les films avec des personnages célèbres, il va falloir aller jusqu'en 1973, où le réalisateur Terence Young, qui est plus connu qui a fait le premier James Bond contre Dr. No, dans Les Amazones, raconte les amours tragiques de Thésée et d'Antiope. Mais comme on est en 1973 et que les mœurs se sont un peu libéralisées, il nous montre un combat un peu saphique, si j'ose dire, entre deux Amazones nues, dont Antios, combat qui se termine d'une façon à la fois froide dans la boue et un peu chaude aussi, il faut bien la voir.
Mais suggéré.
Suggéré. En fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, on va revenir un petit peu en arrière, dans les films sur les Amazones sont le plus souvent traités sur le mode ironique. Alors, on en a un, et parfois, hélas, misogyne. Donc, on en a un qui est très, très célèbre, qui s'appelle La Reine des Amazones, oui, de Vittorio Sala, qui date de 1960. On a des Amazones, aux anatomies fort plaisantes, mais en même temps avec des serviteurs hommes sur un fond musical de mambo. Mais ce qui est intéressant, c'est que les hommes dansent le mambo, les hommes lavent le linge, les hommes font la cuisine, le ménage et la vaisselle, pendant que ces dames font la guerre.
Eh ben c'est normal, quoi.
Mais bizarrement, tous ces hommes sont rigolos. Et ils s'amusent beaucoup, ils prennent ça à la rigolade parce qu'ils savent très bien qu'ils auront un beau jour, ou une belle nuit d'ailleurs, leur revanche. En fait, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'au fond, c'est le cinéma qui nous raconte ça. Alors, parfois, c'est un petit peu plus chaud parce qu'en 73, la même année du film de Terence Young, vous vous en souvenez, dans M'insiste contre la reine des Amazones, qu'on retrouve sous le titre plus explicite « Les Amazones de la luxure »,
oui,
un
là,
film
clair.
X de l'espagnol Jess Franco, là, on aura effectivement le géant Massis qui va se livrer à des combats suivis d'exploits amoureux. Et on va ensuite, on aura un autre personnage tiré de la bande dessinée qui s'appelle Superman, et non pas Superman, et donc Superman contre les Amazones, film de 74, et 74 dans un deuxième, toujours X, et en plus, en 75, du même auteur, Alfonso Brescia, les Amazones font l'amour et la guerre.
D'accord.
Tout un programme, finalement. Au fond, ce que nous racontent ces films, je parle des péplums des années 70, c'est que on a beau vivre et s'aimer entre femmes, on a beau lutter comme des guerriers, on a beau réduire les hommes aux basses besognes ménagères, il arrive toujours, ou si j'ose dire, on vire sa cutie. C'est ce que nous disent les films italiens. Alors, le mythe, lorsqu'il se dégrade, je le dis souvent ici, se décline sous toutes ses formes. Alors, par exemple, dans les gladiatrices d'Antonio Leon Viola, qui est un film de 62, et bien dans Les Gladiatrices, on voit en fait des variétés d'Amazon. Ce ne sont plus des gladiateurs, mais des gladiatrices. Toujours de Léon Viola.
Elles sont toujours belles, ces Amazones,
ou pas ? Ah bon. Toujours de Léon Viola, et toujours la même année, parce qu'il fait deux films en même temps. On a Thor, roi de la force brutale. Alors Thor, c'est un héros moins connu, le nom vient de Taurus, le taureau.
Et donc, ouais, à ne pas confondre avec Thor, voilà. T-H-O-R. Hein.
Alors, dans ce Thor, ce qui est intéressant, c'est que dans Thor, roi de la force brutale, c'est en fait un peplum, mais c'est en même temps un film de jungle. Donc ça veut dire que ça se passe dans la jungle et on va retrouver des guerrières qui sont des guerrières qui vivent dans la jungle. On n'est plus du tout dans la Grèce, on est dans un lieu tout à fait intemporel, si vous voulez. Bon. Et en fait, pour rattacher ça à l'Antiquité, et c'est pour ça que j'en parle, sinon je n'en parlerai pas, eh bien l'action se passe il y a 10 000 ans. On aura le royaume de Byblos qui n'a jamais existé. On va parler des Hyksos qui sont un peuple qui a envahi l'Égypte il y a à peu près 2000 ans. Bref, tout ça, c'est à la sauce antique et c'est tout et n'importe quoi. Quant à l'héroïne... Et
ça, salade macédonienne.
Si on peut dire. Quant à l'héroïne de ces deux films-là, elle s'appelle Néra. C'est la reine Néra, c'est-à-dire la reine de la nuit. Oui, finalement, Greves, quand il parle des femmes lunes, bon. Et puis, alors, ce qui est intéressant aussi, dans toujours ce Thor, roi de la force brutale, qui m'intéresse beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il est accompagné d'un camarade qui s'appelle Ubara Tutu, mais c'est un noir. Et pourquoi ? Parce qu'on est en période décoloniale, ouais, totale.
D'accord.
Donc, le héros s'accompagne toujours d'un noir.
D'accord.
Qui, lui aussi, est aussi bon au déduit que son camarade, si j'ose dire, son camarade torse. Bon. Et il faut vendre le produit en Afrique. Le cinéma, donc, c'est un noir. Et alors, finalement, on voit bien...
C'est toujours pareil, on raconte de vieilles histoires, mais il faut les comprendre à la sauce de l'actualité.
Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va totalement inverser le mythe en 2017.
Ah.
Pourquoi en 2017 ? C'est parce que sort... un film qui s'appelle Wonder Woman. Alors, Wonder Woman...
Avec une actrice israélienne extraordinaire.
C'est ça. Wonder Woman, c'est quelque chose de très intéressant. C'est une bande dessinée de DC Comics qui est créée en décembre 1941, tout de suite après Pearl Harbor et l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Donc, elle apparaît... C'est une BD. Elle apparaît dans une série télévisée de 1971... 3 saisons, 60 épisodes, qu'on peut récupérer, sous les traits d'une héroïne qui s'appelle Lynn Carter, et dont le short moulant aux couleurs américaines a généré, si j'ose dire, quelques images cultes.
Oui.
et je fais partie des admirateurs de Lynn Carter. Donc, en 2017, premier film sur Wonder Woman.
Donc là, on est bien dans l'apologie américaine.
Américaine. Donc, une réalisatrice, Patty Jenkins, et une productrice, Deborah Snyder. C'est intéressant parce qu'elle est mariée au réalisateur de 300, qui venait de passer, Zack Snyder.
Oui.
Le film, c'est intéressant parce que c'est un retour à la mythologie.
Oui.
Pourquoi ? Eh bien, parce que Diana, l'héroïne, c'est la fille de la déesse des Amazones, Hippolyte, et c'est la nièce d'Antiope. Et donc...
Elle intervient dans le contexte de la Première Guerre mondiale, cette fois.
C'est ça qui est intéressant, parce qu'elles vivent dans une île loin du monde, et Première Guerre mondiale, un aviateur américain, Première Guerre, hein, un aviateur, vient échouer, donc elle va découvrir à la fois l'avion, l'homme et l'amour, j'ose dire, et du coup, on est un petit peu loin de la bande dessinée, elle va se retrouver plongée en Première Guerre mondiale. Pourquoi ? Ben parce que à la poursuite de cet aviateur américain ou anglais, pas très clair, des marins allemands arrivent pour essayer de le récupérer, les Amazones interviennent, mais les arcs et les flèches des Amazones face aux mitrailleuses des Allemands ne font pas le poids, et la reine des Amazones, c'est-à-dire une des deux reines, Hippolyte, va mourir. Donc elle va quitter le monde des Amazones pour pénétrer dans le monde réel, qui est celui de la Première Guerre mondiale.
Et là, on a une femme qui vient pour sauver les populations du dieu Arès de la guerre.
Voilà. Donc, c'est l'actrice, donc magnifique actrice israélienne Gal Gadot, qui incarne l'héroïne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle va retrouver, en quelque sorte, son grand-père, hein, sous la forme du dieu Arès, ou Mars, si vous voulez, qui lui explique que les dieux sont... c'est les dieux qui s'amusent. Et donc, les dieux sont à l'origine de 14-18. Ce qui n'est pas inintéressant, parce que ça reprend le thème de l'Iliade.
Oui.
Les dieux sont là.
Oui.
Et ils sont d'un camp ou de l'autre. Et là, effectivement, Arès va être dans le mauvais camp, le grand-père, et Diane va être dans le bon camp. Celui des justes, puisque ça s'appelle la guerre du droit, la guerre de 14, en anglais on l'appelle comme ça, on ne dit pas la première guerre mondiale, ça s'appelle la guerre du droit, voilà. Donc, on va finir par un très curieux film, si vous voulez bien. C'est un film de Walter Lang. On oublie que Walter Lang, c'est un réalisateur de comédie musicale qui s'appelle L'Amazone et son mari, 1933. Et donc, dans ce film américain, les noms des personnages, c'est Hippolyte, Thésée, Antiope, Hercule. Et en fait, il s'agit des variations héroïco-érotico-conjugales du mâle américain des années 1930 qui est forcé de subir la loi de son épouse.
Et moi, je suis forcée de vous arrêter car le temps est déjà écoulé. Et nous terminons sur quelques petites notes musicales de ce film que je vous recommande d'aller revoir. Donc, Wonder Woman. Au revoir Claude Aziza.
Au revoir.